Merci Seigneur parce que tu vis en nous. Merci pour cette grâce infinie de réaliser que tu vis en nous. Sois béni et sois loué pour cette grâce. Donne-nous de prendre conscience de cette réalité divine et de l'appliquer chaque jour dans nos vies. De transférer cette vérité spirituelle de notre esprit dans notre âme et dans notre corps. Afin que la gloire revienne à toi seul, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié que l'Assemblée dise Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Bien-aimés frères et sœurs, en Christ Jésus, nous vous saluons dans le nom de ce glorieux Maître-là. Et nous bénissons parce que chaque jour, il nous fait avancer. Tout ce que Jésus dit, il dit heureux serez-vous lorsque vous mettrez en pratique ce que vous entendez. Vous serez heureux lorsque vous mettrez en pratique ce que vous entendez. Il y a beaucoup de choses que je constate. Il y a beaucoup d'auditeurs oubliés parmi le peuple de Dieu dans le monde. On dirait que la vie chrétienne, bon, c'est aussi un passe-temps qu'ils ont trouvé, comme les gens passent le temps à jouer aux boules, aux cartes et au tout. Et aussi, leur passe-temps favori, c'est d'aller à l'église, d'assister aux réunions, de prendre un peu de parole. Et ils ont accompli leur journée de dimanche. Quant à l'effet de la parole de Dieu dans leur vie, ce n'est pas un problème. Ils ne cherchent même pas à avoir un effet de la parole de Dieu dans leur vie. Et ce qui les intéresse simplement, c'est la bénédiction que le pasteur peut prononcer afin que nous ayons un peu plus d'argent, un poste, que nous puissions aller. C'est ce qu'ils recherchent. Ce qui veut dire que la vie chrétienne n'a pas du tout été comprise. C'est parce qu'ils ont assez à manger que lorsqu'un enfant d'une famille riche a à manger, il devient un enfant gâté. Parce qu'il a tellement le choix avec toutes les nourritures qu'on lui offre qu'il fait le malin en disant à sa maman, moi je n'aime pas ça, je n'aime pas. Mais quand tu n'as que le même repas à manger matin, midi, soir, alors tu n'as pas d'autre choix que de t'asseoir et apprécier chaque instant ce repas-là.
Et
c'est pourquoi les internautes nous font beaucoup de leçons. J'avais telle vie, je menais telle vie. Ils vous disent, je vivais dans le péché. Vous voyez, ils n'ont pas honte. Comme beaucoup d'entre vous, vous vivez dans le péché, vous ne voulez pas dire, je vivais dans le péché, mais telle parole m'a changé, telle parole m'a changé, telle parole m'a changé. Ils ne vont pas passer leur temps à nous mentir. Des gens qui sont à New York, des gens qui sont ailleurs, pourquoi ils vont nous mentir? Quel intérêt? On ne se connaît même pas. C'est parce que tu as mangé des nourritures différentes le matin, midi, soir, et que tu as entre les deux des goûters, que tu fais le malin avec mes paroles. Non, mais je vous dis la vérité. C'est parce que tu as une diversité que tu choisis. Je pose la question. Dans certaines régions du monde, il recopie la Bible à la main. C'est interdit d'avoir une Bible dans... Tu me regardes comme ça. Dans la plupart des pays non chrétiens sont comme ça. C'est interdit que tu aies une Bible. Si tu es chrétien, on te force, on te juge, on te met en prison. Alors comment ils font? Ils n'ont pas d'assemblée comme ici. Ils sont assis. Quand quelqu'un recopie Jean 1, il le donne à l'autre. Il le recopie. Et
et puis ils se réunissent à des heures bien données.
Ils lisent ce passage-là. Ils sont contents d'avoir eu Jean chapitre 1 dans leurs mains. On les met en prison, on les persécute. Mais plus on les met en prison, on les persécute, plus leur foi est affermie dans la réalité de Christ. Alors je pose la question. Combien d'entre nous allaient tenir à cause de certaines petites épreuves seulement comme
ça?
Simplement. Simplement. Alors, est-ce que Dieu ne les aime pas? Dieu ne les aime pas? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Pourquoi ceux qui les font, les persécutent là, à cause de leur foi, plusieurs se convertissent? Pourquoi des soldats qui tirent sur ces gens-là se convertissent? Parce qu'ils ont vu la réalité de Christ dans leur vie. Ils ont vu que Christ est réel dans leur vie. Ce n'est pas un vain mot. Ce ne sont pas des chansons. Mais c'est la réalité. Ces hommes et ces femmes n'ont pas eu d'enseignement. Mais comme le Saint-Esprit en eux et le peu d'enseignement qu'ils ont reçu, Dieu leur a permis de transférer ça rapidement dans leur âme, dans leur corps. Parce que c'est l'âme et le corps qui nous créent des problèmes. L'âme se plaint trop et le corps a des douleurs, des symptômes. Alors quand l'âme et le corps se mettent d'accord, et que l'esprit n'est pas nourri essentiellement, l'esprit n'a pas la parole, puisque Dieu dit que l'homme se vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, alors la vie chrétienne devient très difficile. On est trop conscient des problèmes de l'âme et des problèmes du corps, et en ce moment-là on devient un chrétien déséquilibré. L'esprit ne peut plus entraîner notre vie. La locomotive devient faible par rapport aux wagons et aux différents éléments qui sont les chargements qui sont là-dedans. Alors c'est pourquoi Dieu nous a amené Christ en nous. Pour que, il me semble que certains n'ont pas encore découvert cette réalité-là. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu dans un être humain. C'est la vie surnaturelle dans un être naturel limité. Et cette vie surnaturelle, pour passer dans un être naturel, mais d'abord dans l'esprit de cet être naturel là, un esprit régénéré dans lequel il dépose toutes les provisions, toutes les bénédictions que cet homme ou cette femme aura besoin au temps convenable. Au temps convenable, l'esprit de cet homme ou de cette femme étant rempli des provisions spirituelles divines, Dieu dit à cet homme ou à cette femme maintenant, tu as la foi. Dans ce besoin-là, transporte les provisions spirituelles qui sont dans ton esprit. Envoie-les dans ton âme et dans ton corps. Envoie-les dans ton âme et dans ton corps. Et cet homme-là, sachant qu'il a la foi, que la foi est un don, il a la même mesure de foi que tous les chrétiens, et la foi est liée à la parole de Dieu, cet homme-là décide de se soumettre à la parole de Dieu, de résister à Satan avec la même parole. La parole qui me permet de me soumettre à Dieu est la même parole qui a une autre face qui résiste à Satan. Il n'y a pas deux paroles. Si je me soumets à Dieu, en même temps je résiste à Satan. La même parole qui me permet de me soumettre à Dieu. Donc dans son endroit, c'est la soumission. Dans son envers, c'est la résistance. Est-ce que vous comprenez? Mais si je ne me soumets pas à Dieu, je ne peux pas résister au diable. Et c'est ça que vous voulez faire par le combat. Vous ne voulez pas vous soumettre à Dieu, vous voulez résister au diable. Et les choses se suivent là. Il n'y a pas de train sans locomotive. Il
n'y
a pas de train sans locomotive. Frères et sœurs, est-ce que nous comprenons? Voici où beaucoup de gens sont bloqués. Vous êtes arrivé à votre limite, vous ne voulez pas franchir. Depuis longtemps, Paul dit que vous devez être des champions. Si je suis obligé de revenir au lait, quelque chose ne va pas. Vous devez être des champions. Des hommes et des femmes qui ont répandu dans le monde entier
la
foi et la manifestation de la grâce de Dieu. Mais si on doit tout recommencer régulièrement, ça veut dire que ce qui est entendu n'est pas mis en pratique. Tout ce que vous avez expérimenté, vous ne pouvez pas l'oublier. Dans votre enfant, vous avez expérimenté un jour votre main dans le feu. Vous l'avez oublié? Vous l'avez oublié? Donc, c'est pourquoi vous dites que vous avez la mémoire d'enfant. Pourquoi vous avez la mémoire d'enfant? La mémoire d'enfant est innocente. Un enfant est innocent. Tout ce qu'il expérimente de négatif là, il va garder ça. Parce qu'il ne connaît pas. Il est tellement innocent qu'il ne veut pas le mal. Mais si on lui fait du mal, il risque de garder ça. De la même manière, un enfant naît spirituellement. Alors s'il expérimente la parole de Dieu, il grandit vite. Mais s'il n'expérimente pas ça, il laisse son âme le dominer. C'est difficile pour cet enfant de grandir. C'est très difficile de grandir. Il sera un enfant vraiment un peu déséquilibré. Alors c'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, notre titre est « Comment entretenir et fortifier mon homme intérieur ?» On l'a déjà vu sous une forme, on va le revoir ce matin. Comment entretenir et fortifier mon homme intérieur. Mon homme intérieur là, c'est quoi? C'est mon esprit régénéré simplement. Homme régénéré, mon homme intérieur, mon cœur, c'est la même chose. Voilà. Quand on dit mon cœur là, on ne parle pas de mon cœur qui pompe le sang. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. C'est-à-dire que c'est le même terme, mon cœur, mon homme intérieur, mon esprit intérieur, c'est la même chose. Donc, je peux dire comment fortifier mon cœur et l'entretenir et le fortifier, ou bien comment entretenir et fortifier mon esprit personnel, ou bien comment entretenir et fortifier mon homme intérieur. Et mon homme intérieur, comme je l'ai dit, lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, j'ai reconnu qu'il est mort, tout commence par là. J'ai reconnu qu'il est mort pour mes péchés, qu'il a pris mes péchés, qu'il m'a réconcilié avec le Père par son sang, et qu'il a été enseveli et ressuscité. Je crois ça et maintenant je confesse la Seigneurie de Jésus. Pas confondre, beaucoup de gens sont sauvés, ils n'ont pas fait Jésus Seigneur. Qu'est-ce qui fait de Jésus votre sauveur? C'est quand vous reconnaissez qu'il est mort à la croix, qu'il a pris vos péchés, qu'il vous a réconcilié avec le Père, et que par son ensevelissement, donc la croix, votre vieil homme est mort et vous êtes enseveli. Vous êtes ressuscité avec lui. Vous êtes sauvé. Vous avez une vie nouvelle. Vous avez un esprit nouveau. Mais Jésus n'est pas Seigneur. Jésus est Sauveur. Il n'est pas Seigneur de votre vie. Deuxième élément, on te dit maintenant, si tu confesses de ta bouche, Ce que tu as reçu dans ton cœur là, il faut le confesser par ta bouche. Vous me regardez comme ça. Comment vous êtes marié? Comment tu t'es marié toi? Tu as d'abord cru dans ton cœur à cette jeune fille. Tu l'as aimée dans ton cœur. Oui ou non? C'est ton cœur physique? Hein? C'est le cœur qui bat là qu'il a aimé? Hein? On peut aimer quelqu'un avec le cœur qui bat là? Ce n'est pas le cœur physique. Le cœur physique n'aime personne. Lui, son rôle, c'est de pomper. C'est fini. Tu as aimé cette fille-là. Dans ton cœur. Tu l'as appréciée. Maintenant, si tu refuses de confesser, elle ne sera jamais ta femme. Confesser devant qui? Confesser devant le maire. Confesser à l'église. Que par ta bouche, que tu l'acceptes, que tu la prends pour ton épouse. En ce moment, monsieur le maire te dit, à cause de votre confession de foi, vous êtes déclaré mari et femme. Pourquoi beaucoup de gens n'ont pas Jésus comme Seigneur? Ils l'ont comme sauveur. C'est ce qui fait que votre vie est mitigée. Vous avez reçu un sauveur qui est assis en vous. Il a sauvé votre âme. Mais il n'est pas seigneur de votre vie. Donc quand on dit mon homme intérieur, on parle de l'homme intérieur équilibré. L'homme intérieur qui a reçu Jésus comme sauveur et qui a proclamé sa seigneurie. C'est cet homme intérieur là que je dois maintenant entretenir et fortifier. Alors, cet homme intérieur-là, son analogie, c'est physique, c'est le jardin d'Éden. Écoutez, Dieu a créé Adam et Ève. Il a créé la terre, toute la terre. Toute la terre. Qui forme donc l'élément où l'homme doit vivre. Que l'homme doit occuper. Mais Dieu sait qu'ils sont deux, il ne peut pas tout occuper. Dieu a commencé par un jardin. Dans sur cette terre-là, il a mis un endroit spécial qu'on appelle le jardin d'Éden, le jardin des délices. Le jardin des délices. Où on a des délices avec Dieu. C'est l'endroit où Dieu venait les visiter. Dieu ne partait pas sur le reste de la terre. Dieu les visitait, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Mais avant que Adam et Ève n'aient été créés, comprenez mon message. Est-ce quand Adam et Ève ont été créés qu'ils sont venus trouver que Dieu a commencé à mettre les plantes? Dieu a préparé tout pour Adam et Ève. Tout était parfait dans le jardin d'Éden. Il n'y avait aucune imperfection. Il n'y avait aucun péché. Écoutez-moi. Le jardin d'Éden, c'est ton esprit. Il n'y avait aucun péché. Adam et Ève ne connaissent pas l'adultère. Quand tu dis adultère, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas le péché. D'abord, deuxièmement, il n'y avait pas une deuxième femme dans le jardin. Pour que Adam en vit, il n'y a pas un deuxième homme. Que Ève en vit. Quand tu dis vol, tu ne sais pas de quoi. Qu'est-ce que le vol? Ils ne connaissent pas la méchanceté ni la diffamation. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas la haine entre eux. Jamais Adam n'a levé la main sur elle. Il n'y a pas de violence dans le jardin. Les animaux qui étaient là se couchaient avec eux. Ils avaient les mêmes aliments. Les herbes, les fruits, les végétaux et tout. Il avait tout préparé. Un équilibre parfait. Les minéraux et les vitamines se trouvent dans le sol. Dieu a tout donné à Adam et Ève. Le reste de la terre n'était pas parfait. L'endroit parfait, c'est le jardin d'Éden. L'endroit parfait, c'est ton esprit. Ton âme et ton corps ne sont pas parfaits. Quand quelqu'un est né de nouveau, il est une nouvelle créature, on ne parle pas de ton ventre. Non, on part, ta tête est carrée, elle restera carrée. On parle de ton esprit. Parce que la terre était informe et vide. Il
n'y
avait pas de lumière sur la terre. La terre aussi a été créée, créée de nouveau. Par la parole et le Saint-Esprit. La terre aussi a été créée, régénérée. La terre a été créée de nouveau. Par la parole et le Saint-Esprit. Et quand ça a été créé de nouveau, le jardin d'Éden est venu à l'existence. L'esprit, la terre est venu à l'existence. Mais l'âme et le corps, la terre, si on peut dire ainsi, il
n'y
avait rien. Quand tu es né de nouveau, c'est ça. On te dit maintenant, du jardin d'Éden, prépare les plans pour conquérir la terre. C'est ça que Dieu a dit à Adam et Ève, garde la terre et cultive. On n'a pas de cultiver physiquement. Non, entretiens-la et répands ma gloire sur le reste de la terre. Ça, c'est ta responsabilité. Bah, je t'ai tout donné. Il
ne
te manque rien. Adam et Ève, qu'est-ce que je te manque? Tu es comme Dieu. À l'image de Dieu. Tu as la puissance en toi. Je te pose la question. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, Satan a pu rentrer frapper à Ève.
Hein?
Tu entendais Satan dans le jardin? Même quand il pour les faire tomber là, c'est Satan qui est rentré. Il a infiltré qui?
Il ne
peut pas rentrer. Satan ne peut pas rentrer dans ton esprit. Ton esprit est parfait. Mais c'est ça le problème. Ton esprit est à l'image de Dieu. Dieu est parfait. Ton esprit est
parfait.
Mais tu ne sais pas transporter le parfait dans les imparfaits. C'est toi ton problème. C'est pourquoi tu restes imparfait. Transférer maintenant le parfait de ton esprit là dans l'imparfait de ton âme, ton corps. Ça, c'est le pont de la foi. C'est la foi qui permet de prendre ce qui est dans le parfait pour l'envoyer dans l'imparfait. Pour que l'imparfait devienne comme le parfait. Devienne comme le parfait. Mon frère, ma soeur, voici où là beaucoup de gens perdent la bataille. Ils perdent la bataille. Parce qu'ils sont braqués sur les hommes. Ils sont braqués sur les gens. Ah, c'est à cause de lui là, c'est à cause. Non, mon ami. Aucune femme ne peut faire échouer son mari, aucun mari ne peut faire échouer sa femme. Impossible. Personne. Personne ne peut faire échouer quelqu'un. Toute personne échoue à cause de ce qui est à l'intérieur. Si ton intérieur est rempli d'eau, quiconque envoie le feu va et l'eau va éteindre le feu que ton ennemi envoie. Mais si ton intérieur est rempli de feu, ou bien d'essence, si quelqu'un envoie le feu, il y a quoi? Ça explose. Arrêtez d'enquiquiner les gens. C'est lui-là, ouais, lui il est venu, lui, moi je n'aime pas. Tu n'aimes pas parce que tu es rempli de haine. Tu entends? C'est ça le problème. Tu n'aimes pas parce que tu es rempli de haine. Quand l'amour est là, quand tu sors l'amour, qu'est-ce que tu vas sortir? L'amour. L'amour est là. Tu sors l'amour, tu marches dans l'amour, tu avances dans l'amour. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui sont simples. Vous ne pouvez pas tirer du
sirop
d'une bouteille de Coca-Cola. Même si c'est écrit sur la bouteille, la sirop. Si la bouteille est remplie de Coca-Cola, c'est écrit sirop dessus. Sache que c'est une séduction. On ne peut pas tirer de la méchanceté de l'amour. La prière ne peut pas changer la méchanceté en amour.
La pose pas twenty winam lever non.
Il faut vider la première bouteille. La remplir maintenant. Là d'accord. C'est pourquoi Dieu nous a vidés de notre méchanceté, de notre vieil homme. Il nous a remplis de son esprit pour que nous soyons comme lui. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Si tu n'as pas compris ça, tu vas lutter. Et tu vas lutter et terminer par des échecs en permanence. À la fin, tu seras dégoûté de la vie chrétienne. Dégoûté. 43 ans, je ne suis pas dégoûté encore.
Jamais.
43 ans, je suis dans l'affaire. Tout content, malgré les problèmes. Je suis si content. Jésus m'a sauvé. Je suis content. Je ne suis pas devenu chrétien parce que je voulais quelque chose. Non. Non. Les gens ne comprennent pas ça. Ils ne sont pas devenus pasteurs parce que je n'ai pas de travail. La plupart des gens deviennent pasteurs parce qu'ils n'ont rien. Ils manquent que Dieu les a dit, ils ont tout quitté, tu as tout quitté quoi. Tu avais un vieux vélo, aujourd'hui tu as voiture, tu as tout quitté quoi? Tu as quitté un vieux vélo et Dieu t'a donné une voiture. Tu as gagné avec Dieu, oui ou non?
Il n'y a pas
quelqu'un qui va chez Dieu qui perd. Oh, racontez. Quand vous les écoutez, j'ai tout quitté. Assois-toi, dis-nous ce que tu as quitté. Là. Fais la liste de tout ce que tu as quitté. Et fais la liste de tout ce que tu as aujourd'hui. Tu verras que tu n'as rien quitté. Au contraire, Dieu t'a attiré pour te bénir. Moi, je n'ai rien quitté. Rien. C'est ça. Si tu es dans ça là, tu es content. Tu es content, mon frère. Et tu avances. Ne viens pas chez Dieu pour chercher des choses. Dieu, avant qu'Adam et Ève naissent, le jardin était déjà là. Adam et Ève n'ont pas demandé quelque chose à manger. Quand ils sont nés, quand ils ont ouvert les yeux, ils ont vu la beauté du jardin. Quand tu es né de nouveau, tu as vu la beauté de Dieu en même temps. Il n'y a rien, frère. Écoute-moi, je suis dans une joie. Une joie.
Mais sinon pourquoi?
Je n'ai pas mangé ma macaronie ce matin.
Paris, ma coronie,
non. Je ne vis pas de macaroni. Je vis d'espérance, d'amour et de foi. Et ma chance s'élance vers toi, divin roi. Alléluia. Oh, ma kata Christo Koroskanda. Si tu, personne n'est content de toi, sois content de toi-même. Si ton mari te dit, toi tu ne vaux rien, vraiment avec toi on ne peut rien faire. Tu t'arrêtes devant lui, tu dis, je vis d'espérance, d'amour et mon chant s'élance vers ton divin roi. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Ah. Mon ami. C'est ça, quand tu comprends la vie chrétienne, c'est pourquoi on a brûlé des gens à Rome. Et Néron les a brûlés. Néron a ouvert le ventre des femmes. On leur dit de régner Jésus.
Ils disent,
comment on va régner notre vie? Comment quelqu'un peut régner sa vie? On ne sait pas comment faire. Apprenez-nous comment régner. Je n'ai pas ma vie et puis Jésus a une autre vie. Non, ma Christ est ma.
Christ est ma.
Comment je peux régner ma vie? Comment je peux la régner? C'est parce que tu as ta vie et tu veux que Dieu vienne t'aider dans ta vie. Comment on peut aider la pourriture? Tu es un désespéré. Le vieil homme là, on peut l'aider? On peut l'améliorer? On peut changer le vieil homme. On le fait quoi? On le crucifie. Et puis après quoi? On le fait quoi? On descend dans un tombeau. Et on envoie son amour en enfer. Après maintenant on le fait quoi? On le ressuscite. Après on le fait quoi? On lui donne une vie nouvelle. Après quoi? Le Saint-Esprit vient vivre. Alors ce n'est plus le vieil homme qu'on a amélioré, qu'on a changé. Il y a eu un échange. Un homme nouveau est venu à la place de l'homme ancien. C'est ça le secret de la vie chrétienne. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Alors quand tu comprends ça, mon frère, ma soeur, tu commences à te réjouir. Le jardin d'Éden a été placé sous la responsabilité d'Adam et Ève. Dieu ne leur a pas demandé de créer quoi que ce soit. Dieu ne te demande pas de créer une vie chrétienne. Tu n'en as pas la capacité, je n'en ai pas la capacité, je ne peux pas. Dieu ne t'a pas dit ça. Si Dieu disait à Adam de créer simplement une chèvre, il peut? Dieu a tout créé. Il a tout créé. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? D'entretenir ce qui lui appartient, ce qui lui a été donné, et de faire telle manière que toute la terre là puisse être remplie de ce qui est dans le jardin. La vie divine du jardin, les animaux du jardin, les arbres du jardin devaient s'étendre au fur et à mesure sur là, au fur et à mesure que l'homme, les hommes naissaient, se multipliaient. Ça c'est le rôle de Adam aussi, fécond, multiplication, domination, tout. Il avait tout. Le gars va échouer lamentablement comme nous échouons. Tout est parfait. Notre esprit est parfait. Au lieu de nous baser sur notre esprit, on se base sur notre âme. Ah, moi, je n'aime pas ça, on m'a fait ça. Ah, moi, je souffre beaucoup. Hein. Ma belle-mère est contre moi. Si ta belle-mère est contre toi, quel est ton problème? Pourquoi tu t'inquiètes? Il n'y avait ni révolte dans le jardin. Aucun animal n'attaquait
Adam.
Dans ton esprit là, il
n'y
a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Frères et sœurs, il
n'y
a rien. Dieu lui a dit simplement, il dit, mes enfants, vous voulez? Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné la multiplication. Maintenant, toi, deux verbes. Mais quand on lit en français, on ne comprend pas. Garder et cultiver. Ils vont garder quoi?
Ce
n'est pas eux qui ont cultivé ça. Ils vont les cultiver comment?
C'est-à-dire,
veille. Parce qu'il y a un ennemi qui rôde. Veille sur ça et exploite, multiplie ce qui est là. Par ma parole. Simplement. Pas par autre chose. C'est ça que Paul a compris. Paul est un homme qui va chercher toujours tout. Tout ce que Paul enseigne, il parle de chercher dans l'Ancien Testament. Il parle de prendre au commencement ce que Dieu a déjà donné. Il parle de prendre ça là-bas. Quand il s'agit de la foi, il s'en va dans l'Ancien Testament. Quand il s'agit de toutes ces choses, donc, il part dans l'Ancien Testament. Il va au commencement. Alors, qu'est-ce que Paul va nous enseigner dans ça? Qu'est-ce que Paul va nous dire? Paul a une révélation. C'est la révélation. On a vu ça depuis la semaine passée. Il a eu une révélation. Il a su que Ephésiens 1:3, on est déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles. Dans notre esprit. Les bénédictions de Dieu ne sont pas d'abord des caracoros, de l'argent. Dieu n'est pas fabricant d'argent. Frère, Dieu ne fabrique pas l'argent. Dieu Dieu donne la capacité à un être humain d'être riche, pas autre chose. Dieu n'est pas un distributeur de billets de banque. Dans Deutéronome 8, il a dit, encore deuxième phase, après l'échec d'Adam et Ève dans le jardin, Dieu est un recommenceur perpétuel. Il a recommencé avec eux maintenant dans Canaan. Et dans ce Canaan encore, est-ce qu'ils ont planté un seul arbre? Ils ont construit une maison? Hein? Tout était déjà quoi? Dieu recommande la même chose. Ils n'ont rien planté. C'est pourquoi, humainement, on peut en vouloir aux Juifs. Parce qu'ils sont venus trouver des choses que les gens ont tout fait. Oui ou non? Si tu n'es un homme logique, trop logique, tu veux leur en vouloir. Tu ne vas pas les aimer. Tu dis, ils profitent. Ils profitent de rien. Ce n'est pas les Juifs. C'est les descendants d'Abraham. Et tu es parmi les descendants d'Abraham. Si tu refuses ça là, tu as des problèmes. Donc, Dieu avait préparé Canaan. Les maisons, il veut vous donner des maisons déjà bâties. Il dit, il
n'y
aura pas de femmes qui avortent, il n'y aura rien. Quand vous allez arriver là-bas, et enfin, il dit, je vais vous donner la capacité. La capacité de vous enrichir. Je ne veux pas vous distribuer l'argent. Dieu ne fabrique pas l'argent. Votre vie, votre victoire, Dieu ne fabrique pas. C'est à toi. Il te donne la capacité d'être vainqueur. Non. Écoutez-moi. C'est pourquoi les gens du monde parfois ont compris plus que les chrétiens. Les gens du monde savent qu'il y a tout déjà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des recherches pour découvrir des choses, pour les mettre ensemble, et ça devient une réalité. Mais ces choses qu'ils mettent ensemble là étaient d'abord des choses invisibles. Mais ils sentent qu'il y a des choses invisibles qu'on peut rassembler. Et ça va devenir être des choses visibles. Et c'est ce qu'on appelait les inventions scientifiques. Ils ont découvert l'électricité. Ils ont manifesté. C'est devenu aujourd'hui ça. Mais l'électricité existait. C'est pas eux qui l'ont créé. Ta victoire existe. Ta sainteté existe. Ta guérison est dans ton esprit. Ta bonne santé est dans ton esprit. Tout ce que tu veux là est déjà en toi. Tout en toi. Mais Dieu te dit, te rend responsable. Manifeste-le. C'est pas à moi. Moi, je t'ai tout donné. Nous sommes partenaires. Je fais ma part, tu fais ta part. Si tu ne fais pas ta part, je ne fais rien. Alors, bien aimés frères et sœurs, quand nous comprenons cela, nous commençons à comprendre Christ en nous là. C'est plus profond qu'on ne le pense. C'est un puits de révélation. C'est une révélation que Dieu nous a donnée. Et Paul va nous parler dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, qu'est-ce que Paul nous dit, verset 17? Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Arrêtons-nous là. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est cette volonté-là? Quand on dit la volonté du Seigneur, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a déjà arrêté et qu'il veut manifester. Verset 18. Voilà la volonté du Seigneur ici, dans ce domaine. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, Paul, vous savez pourquoi j'aime utiliser les analogies, les choses, les comparaisons? Parce que l'apôtre Paul est le meilleur dans ça. Regardez ce qu'il vous dit ici. Il dit la volonté de Dieu, la voilà. Mais comme les gens ne veulent pas comprendre la volonté de Dieu, il fait une analogie encore. Il dit, avant de vous expliquer qu'est-ce que la volonté de Dieu, je vais vous donner une image. Personne ne peut dire qu'il ne comprend pas cette image. Les gens disent, ok, dis-nous. Il dit, vous connaissez le vin? Ils ont dit, oui. Il dit que quand quelqu'un boit le vin, il boit beaucoup de vin. À un moment donné, cette personne est quoi? Il est sous de vin. Il est enivré de vin. Il est enivré de vin.
Viens au soir.
Et qu'est-ce qui va se passer? Quand il est enivré de vin, écoutez maintenant, quand il est enivré de vin, le vin est à l'extérieur ou à l'intérieur? Est-ce que le vin qui est à l'extérieur peut saouler quelqu'un? Hein? Alors, je vous pose la question. Voici tout un magasin de vin. Tu rentres là-dedans. Tu sors sous. Hein? Ça peut te rendre
sous.
Voici les problèmes qui t'entourent, qui t'enveloppent. Est-ce que les problèmes peuvent te faire quelque chose? Ça va te faire quelque chose quand ça fait quoi?
Okay.
Ça, c'est le négatif. L'aspect négatif.
Il
dit maintenant, ce magasin de vin là, où tu es rentré, où tu as dormi, tu ne t'es pas enivré. Mais tu sors seulement une bonbonne de vin de là-bas. Bonbonne de vin. Et tu t'assois chez toi. Tu prends un verre. Tu es en train de vider la bonbonne de vin là. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le vin devient quoi? Commence à contrôler quoi? Tout ton être. Écoutez-moi, il y a des choses que vous voulez pas, vous faites semblant de ne pas comprendre. Il faut que vous compreniez. Vous êtes intelligent, hein? Vous faites semblant de ne pas comprendre. Quand il est en train de boire le vin, son père dit, hey, son beau-père vient de mon enfant, ne bois pas le vin là. Il dit non, 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 moi je bois. Il n'y a rien. Quand il a fini de boire le vin là, le vin fait quoi maintenant? Le contrôle. Contrôle quoi? Le vin contrôle tout. Ses cinq sens sont contrôlés par le vin. Il commence à voir quoi maintenant? Quand il regarde les choses, il voit quoi? Double. Sa vision est quoi? Déformée. Sa pensée est quoi? Confuse. Est-ce qu'il entend tout ce qu'on lui dit? Quand sa femme lui parle, il croit que sa femme l'a insulté, oui ou non? Alors, tous ses cinq sens sont complètement pris d'assaut par le vin. Parce que le vin a une puissance. Mais cette puissance ne se manifeste pas tant qu'il n'a pas trouvé un être humain. S'il est posé dans une bouteille, le vin ne fait rien. Si le Saint-Esprit est posé ailleurs comme ça, rien. Mais si le Saint-Esprit vient en toi, il te remplit. Tu vas voir. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, ma soeur. Alors, cet homme qui était là, tranquille, il causait avec tout le monde. Son beau-père, sa belle-mère. Maintenant, cet homme-là, quand il est rempli de vin, il a une joie artificielle, il rit tout seul. Même si tu l'insultes, il prend à rire d'abord. Et il rit. Mais après, son langage sera quoi? Violent. Et ses actes seront quoi? Violent. Il est assis, hein? Il s'en va et se lève maintenant. Ça marche comment? Mais est-ce que qui contrôle cet homme-là? Qui le fait marcher comme ça? Écoutez, ça, c'est l'aspect négatif. Il part voir sa belle-mère qui est assise. Il dit, belle-mère, si tu fais, je te frappe.
Hein?
Mon vieux.
Ngao.
Et puis il s'en va. Avant qu'on sache. Maintenant, ça ne sort pas la bouche et l'arrière. Il vient, ses enfants viennent regarder. C'est un ingénieur en calligraphie.
Il
est en train de calligraphier toute la maison maintenant. Ça
ne
soit pas le nez, ça soit partout. Voici, Paul est très fort dans les analogies. Parce que les gens font semblant de ne pas comprendre les choses. Regardez le vin, ça c'est l'aspect négatif. Et Paul va maintenant, ne vous enlevez pas du vin, mais soyez au contraire, voyez le contraire. Il donne le contraire maintenant. Donc si le vin c'est l'élément négatif, le Saint-Esprit est l'élément, et en même temps il est spirituel. Soyez au contraire rempli de... Alors, si tu prends tout ce qui est négatif dans le vin, tu vas trouver le positif où? Quand le Saint-Esprit est là, lui aussi contrôle quoi? Les cinq sens, oui ou non? Hein? Il amène une joie réelle. Il amène une paix réelle. Un langage doux. Tout est bien. Une attitude bien. Tu marches avec lui. Tu ne menaces pas quelqu'un. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Malgré tout ça, tu peux être là, mais rien ne change dans ta vie. Bah, toi, tu crois que tu dois être passif. Et c'est pourquoi je dis encore aux gens, faites attention. Parce que le Seigneur m'a montré que tout le temps, faire venir les gens pour les conseiller dans mon bureau, là, c'est renier ma propre prédication. Parce que si ils veulent d'abord savoir qu'est-ce que la puissance de la parole qui vient et qui s'asseye pour écouter la parole que je mets dans ta bouche, ce n'est pas ta parole.
Mais
si ça sert avec ton bureau, il t'identifie à quelqu'un qui a une puissance personnelle et qui, sans dépendre de Dieu, peut faire des choses pour eux. Eux, ils restent les bras croisés et toi, tu agis comme un marabout. Imagine si tu continues ça là, tu vas avoir des problèmes avec moi. S'ils veulent changer, qu'ils viennent, qu'ils aient l'humilité de venir t'écouter d'abord. Si moi, Dieu, je ne leur réponds pas par la prédication, en ce moment-là, l'homme Karambiri, qui est plus grand que Dieu, va leur répondre. C'est normal ça? C'est normal? Ok. Pourquoi il y a la prédication? Pourquoi on dit que l'application de la croix, c'est une puissance? Pourquoi dit prêcher? Si tu es là, dit conseiller les gens. Il dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Prêcher la bonne nouvelle. Dites aux gens ce que j'ai fait. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, alors quelque chose va se passer. Dieu me dit maintenant, quand je dis rempli du Saint-Esprit là, tout ce que le Saint-Esprit est, a, peut, vient en moi. Les trois verbes. Tout ce que le Saint-Esprit est, ce qu'il a, ce qu'il peut faire, quand le Saint-Esprit vient, ces trois verbes-là viennent dans ta vie. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il est, la plénitude de la divinité, tout ce qu'il a, la puissance divine, les bénédictions divines, tout ce qu'il peut faire, tout est en toi. Toi, tu me poses la question, mais pourquoi je ne vois pas? Je te pose la question. Pourquoi le Burkina Faso, pendant des années, n'a pas vu l'or? Je te pose la même question. Pourquoi n'ont pas vu l'or? Parce qu'il leur manquait la qualification, la capacité d'aller prendre dans le sol ce qui est déjà caché. quand ils ont eu ces machines-là, d'abord il y a eu la révélation que dans le sol il y a de l'or. Deuxièmement, ils ont eu les instruments pour aller extraire l'or. L'or caché dans le sol burkinabé a commencé à devenir réalité dans les mains des Burkinabés. La Bible dit que le trésor qui est dans votre esprit là, c'est que le trésor est déjà dans votre esprit. Mais c'est à vous de l'extraire. C'est pas à Dieu de l'extraire. C'est à vous de l'extraire. Par la foi que Dieu vous a déjà donnée. C'est-à-dire la foi parle et agit. La foi parle et agit. La foi, il n'y a pas de foi où on ne parle pas, où on n'agit pas. Non. C'est pas la foi. C'est la pure croyance. Que Dieu existe. Ça ne donne rien à quelqu'un. Rien. Les démons savent que Dieu existe. Pourquoi ils tremblent?
Vous
voyez, frères et sœurs, il faut être rempli permanemment du Saint-Esprit. Permanemment du Saint-Esprit. Permanemment. Pas de temps en temps. Quand le Saint-Esprit vient là, il faut l'entretenir pour que permanemment il soit en toi et qu'il ne soit pas triste. Alors, pour entretenir le Saint-Esprit, mon frère, on va voir maintenant la deuxième partie. Notre message ce matin, c'est premièrement entretenir une atmosphère spirituelle qui lui est agréable. Ça, c'est normal. C'est difficile de vivre avec quelqu'un qui a créé autour de toi une atmosphère qui te choque et qui te blesse. Oui ou non? Il est bon quand tu es à l'aise, tu as une atmosphère agréable, tu es pressé d'aller là-bas. Personne n'est pressé de rencontrer son ennemi. Mais tout le monde est pressé de rencontrer son ami. Par l'ami crée autour de toi une atmosphère de paix, de protection, de partage. Le Saint-Esprit est doux. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne veut pas qu'on l'offense. Il n'aime pas ça.
À part de ton bière, mais pas non on est.
Il n'aime pas ça.
À part non on est.
Il n'aime pas ça.
Pas non on est.
Il veut que tu le respectes.
Attends, faut nan bamba.
Crée une atmosphère de paix, d'honneur, d'exaltation, de célébration.
Vous m'avez dit mais y'a bamzien que les aboirés, l'aboir, la nan pemson.
Alors. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Mais une atmosphère agressive ne permet pas au Saint-Esprit d'agir. Le manque de respect au Saint-Esprit ne lui permet pas d'agir. Aucun prophète ne peut changer ça. Arrêtez de vous séduire. Le Saint-Esprit n'est pas contrôlé par un prophète. C'est contrôlé par toi. Il n'est pas dans les prophètes et puis il n'est pas en toi. S'il était dans les prophètes seulement, on peut dire oui, mais il est en toi. Toi, tu offenses le Saint-Esprit et tu vas voir quelqu'un, il va faire quoi? C'est pas le même Saint-Esprit, non? Les gens de Nazareth ont offensé le Saint-Esprit qui est en Jésus. Il a pu opérer. Il y a eu des miracles. Mais les gens de Génézareth, ils ont honoré le Saint-Esprit. Est-ce que Jésus a prié pour eux? Non. Il y a eu tellement de guérisons en touchant le vêtement de Jésus. Que fais-tu avec le Saint-Esprit? Il est en toi. Que fais-tu avec lui? Quel est l'honneur que tu lui donnes? Quel est l'honneur? C'est ça qu'il attend de toi. Tu sièges au milieu de la sainteté d'Israël.
Ah.
Quelle est l'atmosphère qui plaît à Dieu? La louange. On ne parle pas de la louange des groupes musicaux. Il n'y a pas de groupes musicaux. Jésus n'a pas de groupe musical.
Jésus n'a pas de groupe musical.
Écoutez. La plupart des groupes musicaux que nous avons là, c'est pour nous-mêmes. Il y a longtemps, on a dansé le goumbé. On veut danser le goumbé avec eux. On dit, tu habitais dans les louanges d'Israël. Tu habites dans les louanges. Il habite son habitation. Dieu fait de la louange son habitation. Alors, si Dieu fait de la louange son habitation, est-ce que tu habites à l'église? Tu habites ici. Donc ça veut dire que tu dois louer Dieu où? Au service. Tu dois louer Dieu où? Dans ta maison. Tu dois louer Dieu où? Dans ton voyage. Partout où toi tu es. Comme le Saint-Esprit en toi. Tu dois faire quoi? Louer Dieu, véritablement. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Il y a des gens qui aiment se plaire. Moi, je n'aime pas ça. Ah, on m'a fait ceci. Ah, on m'a fait cela. Je n'aime pas causer avec ça. Tu ne peux pas venir m'empoisonner.
Ah.
Je reste là-bas. Je te résiste au nom de Jésus.
Jésus.
Tu n'es pas Satan, mais je te résiste.
Au nom de Dieu.
Il y a quoi?
Ah oui.
Ah oui. Y a quoi encore? C'est mon mari là.
Y a
quoi encore? C'est ma femme là.
Y a pas.
Y a quoi encore? Ah, tout le monde, personne ne me comprend. Si Dieu te comprend, où est le problème?
Y a moins de yelbe.
Réjouis-toi.
Moi.
Pourquoi vous ne pas vous réjouir? Pourquoi c'est tout le temps les plaintes? Les plaintes et les murmures amènent quelle présence? Présence de qui? Satan. Satan habite dans les murmures et dans les plaintes. C'est pourquoi Israël n'est pas rentré en Canaan. Ils aimaient murmurer. Tout le temps murmurer. Tout le temps murmurer. Tu verras ton Canaan, tu n'y entreras pas. Vous entendez? Ça, c'est important. Il dit pourtant, tu sièges, tu habites dans les louanges d'Israël. Quand cette femme a voulu un enfant, sa sœur était plus aimée qu'elle. Comment elle s'appelle? La femme de Jacob. Rachel.
Rachel.
Elle voulait un enfant.
Alors, c'est l'arnaque de Biga.
Elle n'était pas aimée par son mari.
Là, c'est la panonga.
Elle a commencé à donner des noms bizarres à ses enfants. Et Dieu lui a fait grâce. Oui, Dieu lui a donné des enfants. Par rapport à sa coépouse, sa sœur qui était aimée par le mari, elle a eu des enfants. Et la femme aimée n'a pas eu des enfants. Vous comprenez cette révélation-là, jeune Jean.
Elle n'a pas de nom, elle n'a pas de kwamba. T'as patare, vous m'avez vu kanga, kombise.
Si vous n'êtes pas reconnaissant envers les gens, si vous n'apprenez pas à aller vers les gens, vous restez dans vos limites. Vous ne bougez pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné Siméon, Ruben, Siméon, elle a donné tous les noms. À cause de ça, mon mari va s'attacher à moi. Le gars s'est éloigné. Et en ce temps, la femme bien-aimée là,
pour non, là.
Elle ne gagne pas d'enfant parce qu'elle aussi elle murmurait. À la fin, Rachel s'est assise un jour. J'ai donné beaucoup de noms. Mais André ne s'appelait pas à Dieu. Il dit son quatrième enfant maintenant. Il dit bon, Dieu, j'ai compris. Ah, j'ai compris ta nature. Si tu me donnes un enfant, cette fois-ci, je vais l'appeler quoi? Judas. Judas veut dire quoi? Louange. Quand il a donné ça, là, les choses ont changé. Quand il a commencé à vivre dans la louange, les choses ont changé. L'atmosphère a changé. L'atmosphère que Dieu veut, c'est l'atmosphère de louange. Pourtant, tu habites dans les louanges. Tu habites. Tu habites. Il en a fait son habitation. Vous voulez avoir raison avant de louer Dieu. Ça, ce n'est pas louer Dieu. On ne loue pas Dieu quand tout va bien. Ça, c'est Djangoba. Ça n'a rien à voir avec la louange. Même le païen loue quand il a eu des. Il a roulé quelqu'un. Ce n'est pas de ça qu'on parle. La louange, c'est quand rien ne va. Et la présence de Dieu se manifeste. La présence de Dieu qui est en toi par le Saint-Esprit là. Quand tu loues Dieu, quand ça ne va pas, ça se manifeste. C'est ça. On est en d'arriver à des applications. Comment amener que le Christ qui est à moi prenne le contrôle pour qu'il se manifeste. Comme le vin est manifesté, le Saint-Esprit veut se manifester. Dieu dit, donne-moi une atmosphère de louange. Donne-moi une atmosphère de louange. Donne-moi ça. Ah Seigneur, j'ai mal ici. Donne-moi la louange. Ah Seigneur, j'ai perdu mon boulot. Donne-moi la louange. Donne-moi la louange. Donne-moi la louange. Je peux te raconter plein de témoignages dans ma vie comme cela. Ce qui me fait aller de l'avant là, quand rien ne va, c'est en ce moment que je loue Dieu. Tout seul, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Mais vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas. Aujourd'hui, vous n'aimez pas. Non. Tu comprends? La louange. Tu habites dans la louange de ton peuple. Regardons autre passage, toujours ce que, pour avancer. Et Jean 4. Ce que Jésus nous a dit lui-même, Jean 4, verset 23 à 24. Ça va nous conforter dans le psaume 22, 3 là. Jean chapitre 4. Versets 23 et 24, ça sort de la bouche de Jésus. Mais l'heure vient. Et elle est venue, déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche, demande. Alors, Dieu ne cherche pas l'adoration. Dieu cherche des adorateurs. C'est quand tu te qualifies comme adorateur que tu peux le louer, que tu peux l'exalter. L'adorateur est un homme qui est conduit par l'esprit dans son esprit et la vérité de la parole. C'est pourquoi il dit chez les adorateurs en esprit et en esprit là, c'est pas majuscule, hein, eux là, c'est minuscule. C'est-à-dire des adorateurs qui sont dans leur cœur, dans leur esprit là, déjà adorateurs. Et qui marchent dans la vérité de la parole de Dieu. On n'a pas dit des chanteurs, on dit adorateurs. Il n'a pas de musiciens. Il dit adorateur. Il cherche ces adorateurs là. Verset 24. Dieu est esprit. C'est pourquoi j'ai les adorateurs en esprit. Dieu ne cherche pas des chants. Non. C'est pourquoi mon chant, s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, si mon chant n'est pas dans mon esprit, si c'est seulement dans ma tête et dans ma bouche, je vais chanter. Il n'y aura rien. Dieu est esprit. Celui qui veut l'adorer d'abord l'adore en dans son esprit. Et il le fait par la parole de vérité. C'est ça. C'est pourquoi quelqu'un, sur un bateau, j'ai lu un témoignage un jour dans un bateau qui voyageait d'Angleterre jusqu'aux États-Unis. Ils ont décidé de faire un concert pour passer du temps, parce que ça se trouvait que vraiment le voyage était long à l'époque. Alors ils sont réunis dans la salle de banquet du bateau. Ils ont préparé tous ceux qui veulent chanter. Il y avait un pasteur dans le bateau. Et il s'est mis sur la liste des chants. Mais il a dit qu'il veut chanter en dernière position. Alors, on a fait chanter les gens. Oh, il y avait des vedettes de chant qui ont ému, qui ont touché la salle. Le pasteur était assis, il parle en langue. Il prie en esprit. Il n'écoutait pas les autres là. Il savait que Dieu allait lui donner l'occasion pour affecter donc le bateau. Quand tout le monde a fini, mon frère, on a appelé le pasteur. Quand il a commencé à ouvrir sa bouche, dans un premier temps, tout le monde a éclaté de rire. Sa voix, c'est comme des casseroles. Mais quand il a chanté « Jésus est ici
ah, »,
quand il a chanté « Jésus est ici », ça sortait où? De son. Il a commencé à envoyer des fleuves d'eau vive sur qui? Ça venait de là? Ça venait de ta bouche? Ça venait de son esprit. Jésus est ici. Quand il a commencé à chanter ça, tous ceux qui riaient là, les gens ont commencé à se saisir. Et alors, mon frère, ma soeur, toute la salle était à genoux. Les gens en larmes. C'est en ce moment-là que la vedette de chant, qui était une non-chrétienne, mais une chrétienne de nom comme ça, a couru dans sa cellule. Elle est tombée sur ses pieds. Elle dit, Seigneur, les gens payent pour venir m'écouter. Les gens m'applaudissent. Voici un pasteur qui n'a aucune qualité de chanteur, qui a amené toute la salle sur ses genoux. Oh Dieu, fais-moi cette grâce. Je vais être comme cet homme-là. Je ne veux plus chanter pour faire émouvoir les sens des gens. Et c'est en ce moment que le Seigneur, là, elle a été convertie, elle s'est répentie. Elle s'est convertie. Et dès qu'elle s'est convertie, elle a été inspirée par ce chant. Qui dit, sans rien à toi, je viens à toi.
Rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. De Dieu, je viens.
Il y a quelques 30 minutes, elle était dans la salle comme la vedette numéro 1 pour animer les concerts du bateau. 30 minutes plus tard, à cause d'un chant d'un pasteur qui a la voix rock, mais qui avait le Saint-Esprit, la voilà à genoux, inspirée maintenant de son nouvel esprit régénéré, est sorti le meilleur chant que Billy Graham a utilisé dans le monde entier pour remplir les stades du monde entier. Quand la chorale de Billy Graham chantait ça, des milliers de gens se lèvent pour venir à Christ. Il y a une force qui les attire pour venir à Christ. Vous comprenez? C'est ça, entretenir son esprit et le fortifier. Tu comprends? Frères et sœurs, ce n'est pas votre qualité. C'est la qualité de la vie divine en toi. La qualité de la vie divine en toi. Apprenez à Je ne sais pas pourquoi. Pas c'est pourquoi moi je hais les dénominations.
Il y a des mamans qui soulent ça.
Dénominations, je hais ça. Les dénominations divisent les gens. Ils divisent Jésus en morceaux. Nous, on croit ça. Vous croyez. Non, moi, j'ai horreur de ça. Horreur de ça. Jésus est indivisible.
Je ne
sais pas. Faites attention. Faites attention de diviser le corps de Christ. Parce qu'il va. Quand vous serez là-haut, là. Comprenez? Ça, c'est important. Donc, vous voyez, psaume 22, tu as bien la louange. Bah, tu es esprit. Ah, j'ai compris. Tu es esprit. Et tu veux un adorateur en esprit. Ah, j'ai compris. Donc, avec mon esprit régénéré maintenant, je vais te louer. En utilisant quoi? Ta parole. On loue le Seigneur avec ses propres paroles. Ou bien, si tu ne comprends pas ses propres paroles, on va aller plus loin. Et verset 19 et 20 maintenant, on revient à Éphésiens 5. Si tu n'as pas les paroles, regarde comme ton esprit est déjà rempli. Il dit entretenez-vous. Ah, entretenez-vous. Par quoi? Par des psaumes. Toi-même, tu peux composer des psaumes pour le Seigneur. Si tu n'as pas, prends des bons psaumes de des livres des psaumes. Par des hymnes. Par des cantiques spirituels. Tous les cantiques ne sont pas spirituels. On dit des cantiques spirituels. Tu comprends? Ne prends pas. Arrête ça. Il y a des gens qui chantent jamais. Il est un fleuve. Ça veut dire qu'il n'a même pas de puits en lui. Il dit chanter un fleuve. Le gars n'a pas de puits. Il ne va pas chanter. Hein. Des cantiques spirituels, des hymnes. Regarde la suite. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. De tout votre cœur. Chante. Mets des cantiques, mets des bons CD. Loue le Seigneur. Si tu ne sais pas chanter. Mais prends un ou deux cantiques, chante-les. Tu es en train de faire la cuisine, murmure ces cantiques-là. Tu es en train de conduire ta moto, murmure ça. Sifflote ces choses-là. Réjouis-toi dans le Seigneur. Dis-lui, je me réjouis sur la moto. Je me réjouis à pied, je me réjouis à vélo. C'est ça qui entretient ton homme intérieur. C'est ça qui le fortifie. Tout le monde a des muscles, mais tout le monde ne sera pas champion du monde. Ce sont ceux qui sont exercés qui deviennent des champions. Tout le monde est né avec des muscles. Il n'y a pas un seul homme. Si tu n'es pas né avec des muscles, tu es déjà paralysé au départ. Mais il n'y a que ceux qui développent les muscles qui deviennent des champions. Ne reste pas parmi les anonymes. Ne reste pas dans la classe des anonymes. Les anonymes, personne n'a besoin d'un anonyme. Les gens veulent les impacteurs de vie. Les gens qui cherchent et qui impactent la vie des gens. Alors développe ton muscle spirituel. Développe-toi régulièrement. On dit par la louange. Par la louange. Le Saint-Esprit qui est en toi commence à prendre position. Et tu dis maintenant, je refuse la maladie dans mon corps. Je refuse la pauvreté. Je refuse l'échec dans ma vie. Car je suis un champion. Je réussirai. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors. Il me rend plus que vainqueur. Chante. Loue le Seigneur. Et ensuite il dit 1 Corinthiens 14 verset 25, je crois, si je ne m'abuse. 1 Corinthiens 14, 15. Qu'est-ce qu'il a dit? Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Chante des cantiques que tu connais en français, en morée ou à autre chose. Et puis ensuite, chante en langue. Prie en langue. Prie aussi en français. Ou en morée ou en djula. Fais les deux. Fais les deux. Mon frère. Si tu fais les deux, ton esprit est entretenu. Il est rempli. Et le verset 21 de Éphésiens 5, 21, il dit, vous soumettant les uns aux autres, dans la crainte de Christ. Ah, la soumission réciproque permet au Saint-Esprit. C'est la reconnaissance de ton frère, ta soeur. Tu reconnais ton frère comme un canal de Dieu, ta soeur comme un canal de Dieu. Elle a de la valeur. Tu as de la valeur, elle a de la valeur. Tu la reconnais. Et ça, c'est important. Tu la reconnais comme un canal de bénédiction. Tu la reconnais, mon frère, ma soeur. Et tu vas avancer. Ça, c'est le premier élément. Crée une atmosphère où le Saint-Esprit est à l'aise. Deuxième élément, Proverbe 4, 23. Regarde, il s'agit de ton cœur. Garde ton cœur plus que tout. Tu as vu, on a vu dans... Dans les Éphésiens, là, entretenez-vous vous-même. Comme avec Adam et Ève. Vous voyez les mêmes mots encore. Ici, il dit garde ton cœur. Garde ton cœur et le jardin maintenant. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. On ne parle pas de ton cœur physique. On parle de ton esprit, l'homme intérieur. Garde l'homme intérieur de ton esprit régénéré. Viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent de là-bas. Alors garde ça précieusement. Sois jaloux de ce cœur-là. Quand Satan veut s'approcher, il faut lui dire de partir loin. Repousse-le. Ne laisse pas venir souiller ton cœur. Car ton bien-aimé est là-bas. Ton bien, s'il est vraiment un trésor pour toi, tu vas éloigner de lui tout ce qui vole sa présence, vole ces choses-là. Mais si le Seigneur n'est pas un trésor, n'importe quelle chose va rentrer dans ton cœur et souiller ton cœur. Et alors, tu ne seras jamais quelqu'un qui a la victoire. Tu n'auras jamais la victoire. Mon frère, ma soeur. Et Colossiens 3, 16 dit effectivement, non seulement tu gardes ton cœur, que la parole de Dieu soit habite. C'est en français dit parmi vous, non. Habite abondamment en vous. Habite, c'est ça. J'entretiens mon cœur par l'atmosphère de louange, d'adoration. Je suis un adorateur. J'adore Dieu dans toutes circonstances. Je garde mon cœur plus que toute autre chose. Et qu'est-ce que je fais? Alors, je remplis mon cœur de la parole de Dieu. Ton cœur physique ne peut pas avoir la parole de Dieu. On parle de ton cœur spirituel. Ton cœur physique est rempli de sang. C'est un muscle qui envoie le sang. Mais ton cœur spirituel rempli, habite abondamment. Abondamment dans ton cœur. C'est pourquoi il faut méditer la parole de Dieu régulièrement. Et médite la parole de Dieu régulièrement. Quand tu arrives chez toi, aie un temps. Discipline-toi. Un homme qui ne lit pas la Bible, c'est un vaincu dès le départ. Une femme qui ne lit pas la Bible est une vaincue. Ce n'est pas la peine de se promener et fatiguer les gens. Par toute manière, on ne va pas te donner autre chose que la parole de Dieu. Alors mon frère, ça c'est la deuxième chose. Garde ton cœur en le remplissant de la parole de Dieu. Troisième chose, pour garder ton cœur et Jacques 4, verset 7.
Jacques 4, verset 7.
Jacques 4, verset 7.
Jacques 4, verset 7.
Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Ah, c'est tellement logique. Premièrement, je suis dans la louange. Ma vie, même si ça, je pleure, je loue Dieu. Louer Dieu et pleurer, ça ne s'exclut pas. Ce n'est pas des choses contraires. Non. Pleurer et louer Dieu, ça ne se contredit pas. Tu es en train de louer Dieu, tu n'es pas en train de louer. Toi, tu es en train de pleurer. Mais tu loues Dieu. Ça ne se contredit pas. Vous voulez rire et puis louer Dieu. Dieu dit ah non, mon enfant, tu n'es pas honnête. Actuellement, ce sont tes larmes que tu dois verser. Tu es en train de rire pourquoi? Pleure, continue à le louer. Crée une atmosphère dans les temps difficiles. Crée une atmosphère quand ça ne va pas. Crée une atmosphère quand tu vas trouver l'homme là assis à la maison. Tu lui salues, il ne te salue pas. Crée l'atmosphère. Crée l'atmosphère. Je vous ai dit comment, quand les gens parlent. Mettre quelqu'un au garage là, c'est pas une mauvaise expression. Non, on m'a mis au garage. Moi, un directeur général, avant que je devienne directeur général, un directeur général qui m'a mis au garage 2 ans. Mais je vous pose la question. Quand tu mets ta voiture au garage là, c'est un problème. Tu mets ta voiture au garage pourquoi? Pour qu'on le répare. Et il va sortir pour mieux circuler. Alors, tu sais pas pourquoi les gens sont allés mettre, quand ils prennent, mettre au garage là, c'est négatif. Je ne sais pas pourquoi. 2 ans, m'a mis au garage là. Ça m'a permis 2 ans de développer tout ce que je vous dis ici là. C'est pendant ces 2 ans là que Dieu m'a parlé. Et pendant ces 2 ans là, je n'ai pas fait de problème. Ils m'ont mis au garage. Ils m'ont donné une voiture. J'ai mon salaire. Je vais à Ouara comme je veux. Il y a un problème dans ça. Hein? C'est parce qu'on ne me donne pas un dossier à traiter. Ça me fait quoi? J'ai la Bible à traiter, non? Et les ouvriers venaient dans mon bureau. Ils venaient demander des conseils. Ils sortaient renouvelés. Quand Dieu a fini de me réparer là, dès qu'on a fini de me réparer, j'ai une double promotion. Dès que ma réparation est finie, un nouveau directeur général est venu. Il m'a dit, tu reprends ta place de directeur commercial. Une semaine plus tard, on me convoque à Ouagadougou. Avant que je devienne directeur commercial, tu es déjà à Ouagadougou. Pourquoi? Moi, j'ai accepté qu'on me rechemise. Le garage, c'est un rechemisement. Quand votre voiture en panne, vous rechemisez. Oui ou non? Pourquoi vous êtes découragé? Quand vous devez être rechemisé spirituellement. Quand vous devez être travaillé spirituellement. Pourquoi vous découragez pour ça? Ah, personne ne m'aime. Laisse-toi qu'on te rechemise. Si ton cœur est tordu comme un escargot, on va rechemiser ton cœur. Dieu va te permettre, on va te mettre au garage. Le Saint-Esprit qui devait être un créateur devient un réparateur en ce moment. Parce que tu ne veux pas être conduit, il est obligé de te réparer. Avec des nouvelles pièces. Mais si tu es dur, ta réparation va durer 4 ans. C'est toi qui vas permettre au Saint-Esprit de te réparer vite. Si tu résistes, on dit de résister à qui? Si tu résistes à Dieu, ta réparation sera rapide. Hein? La plupart du temps, vous résistez à Dieu. On vous dit de résister à Satan. Vous soumettez à Satan et vous résistez à Dieu. Je ne comprends pas ça. Vous résistez. Ah, c'est Dieu ici. Ah, ça c'est trop dur, hein, quand même. Dieu, quand même, c'est ok. Quand c'est comme ça, le garagiste laisse la voiture. Les autres qui viennent là, on répare. Il y a quelqu'un qui a des pieds détachés de ta vie. C'est le Saint-Esprit lui-même. Alors, pour terminer. Lisons un passage, on va le terminer. Mon frère, ma soeur. On va parler lire de 2 Timothée 1, 6, 5 à 6.
Timothée,
Paul dit à Timothée, tu as la foi comme ta mère.
Tu as
la foi comme ta grand-mère. Tu as le Saint-Esprit. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu ne donnes pas de résultats? Pourquoi ta vie ne donne pas de résultats? Il dit parce que toi tu crois que Dieu nous a donné un esprit de timidité, de peur. Il dit, non, 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 Timothée. Il dit, ranime la flamme qui est en toi. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais au contraire, un esprit de force, un esprit de courage, d'amour. Il dit, ranime toi-même. Notre responsabilité, ce n'est pas Dieu. Dieu dit, je vous rends responsable. Gardez votre jardin. Exploitez-le correctement pour l'étendre dans votre âme et dans votre corps. Ranime la flamme du don. Tu as la foi pour ça. Timothée, tu as la foi. Ne dis pas que tu n'as pas la foi. Ton aïeul Loïs a eu ça. Ta mère Eunice a eu ça. Et j'en suis certain, tu as la foi. Mais tu ne veux pas l'utiliser. C'est à toi de ranimer. Car moi, Paul, j'ai la certitude. Quand je t'ai imposé les mains et le collet des anciens, tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur toi. Donc, ce n'est pas moi, je n'imposerai pas une main une seconde fois. Arrêtez de me fatiguer tout le temps de venir que je prie pour vous. Arrêtez de me fatiguer là. Depuis quand tu avais Jésus, deux fois, il a prié pour que le Saint-Esprit vienne sur lui. Paul, non, c'est ton rôle, c'est ton rôle. On dit, entretiens-toi. Entretiens ta voiture. Tu fais vidange ta voiture. Tu mets l'essence. Tu fais nettoyer. Et ta vie spirituelle, tu ne veux pas faire vidange. Ton huile est rassis maintenant, ton huile est foutue. Tu ne veux pas aller pour vidanger par la repentance et la confession. Tu ne veux pas te séparer de ton ancienne vie. Mais ça ne peut pas marcher, frères et sœurs. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Viens chercher quoi? Il y a des églises qui donnent tout cadeau. Faut les chercher. Tu vas aller t'asseoir là-bas. Là-bas, si tu veux des triplés, on te donne triplé. Si tu veux 408, on te donne 408. Si tu veux voiture 6-6, on te donne
6-6.
Si tu veux même l'archange Michel, on va te le donner. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi tu viens te fatiguer ici? Tu mélanges deux choses qui n'iront pas. Si on fait deux mélanges, on ne peut pas aller.
On
va aller t'asseoir là-bas. On va te flatter, bouffer ton argent. Et ensuite, on va te dire que, bon, toi-même, on mange ton argent et puis ce n'est pas eux qui jeûnent pour toi, c'est, on te donne jeûne encore.
Le gars,
il prend ton argent. Il devait jeûner pour toi. Oui ou non? Oui ou non? Et tu prends ton argent. Il dit d'aller jeûner encore. Tu pars jeûner. Il dit, il n'y a rien. Il dit, c'est parce que tu n'as pas la foi. Moi, tu es juif, tu donnes mon argent. Tu as pris mon argent. Tu m'as fait jeûner 3 jours. Au moment où il y avait des bons repas, j'ai manqué ça. Je reviens. Tu me dis que je n'ai pas la foi. Si tu ne donnes pas mon argent là, je ne quitte pas ta maison. Toi, tu es un escroc. Tu es un escroc. Non, non, non. On vous dit maintenant, non. J'ai vu un nouveau mensonge. J'ai vu quoi? Je vais te dire un nouveau mensonge. C'est ça. Pour l'amener, Silas. Il dit, Dieu m'a dit d'aller dans cette ville-là, en Macédoine. Allons-y. Paul, s'il a dit, c'est formidable, hein, chef. Oui, mais Dieu te parle. Vraiment, Dieu est fort. Tu as eu la vision. Il dit oui. Ils sont allés. Paul a commencé à prêcher contre les dianes et autres choses là. On les a attrapés, fouettés. Silas dit,
Silas dit,
il dit, chef, vraiment, c'est Dieu qui t'a entendu.
Mais
les gens croient que quand on avait Christ, il n'y a pas de problème. Il vous a déjà dit, vous aurez des. Mais prenez, car j'ai. Pourquoi vous arrêtez, vous aurez des. Il dit, j'ai vaincu. S'il a vaincu, vous avez vaincu aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Paul dit, petit, à l'école de. La manifestation de la puissance de Dieu, il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre. Il y a des moments où quand tu dis au nom de Jésus, les choses se passent. Il y a des moments, c'est la louange. La louange dans les temps difficiles. S'il a dit, louer où? Mais on peut louer comment, chef? Nos pieds sont dans les choses. Nos bras sont derrière. On a fouetté nos dos. On ne peut même pas gratter nos dos. On va louer comment? Paul dit, commence à prier. Rends grâce à Dieu pour les 39 coups de fouet. Rends grâce à Dieu pour les 39 coups de
fouet.
C'est dans la Bible. Remerciez Dieu. Pour les difficultés, c'est dans la Bible. Bénis-le. Dans la Bible. Ils ont commencé tout doucement. Paul dit maintenant, on va passer aux louanges chantées. Il a commencé à chanter. S'il a dit, ah, le type là, ça doit être un fou.
Il
ne faut pas le vivre. Hein. Dieu, si tu me sors de la prison là, je crée mon ministère. Je
ne
veux plus suivre l'homme là. Quand tu le suis, tu as des problèmes. Paul dit, tu n'es pas encore sorti. Si tu veux avoir ton ministère, il faut d'abord sortir. Donc maintenant, tu dois obéir. Commence à louer Dieu. La Bible dit qu'en plein minuit, on les a mis depuis le matin, en plein minuit maintenant, à l'heure sombre de la vie, c'est l'heure aussi où la nouvelle journée va commencer. À minuit là, c'est l'heure sombre de la vie, de la vie passée. En même temps, c'est le commandement de la nouvelle vie. C'est en ce moment que c'est difficile parfois. C'est en ce moment que c'est très difficile. Où vous pensez qu'il n'y a plus de solution. Vous pensez qu'il n'y a plus d'avenir. C'est en ce moment qu'ils ont levé la voix. Il a dit, brusquement, tout à coup, les tremblements ont commencé. Les murs ont commencé à trembler. Tout a commencé à trembler. Les fondements se sont renversés. Tout est ébranlé. Alors le geôlier court pour venir. Il voulait se tuer. Paul dit non, nous sommes ici. Et ça a amené la transformation de la ville. Frères et sœurs, il faut apprendre ce que je t'ai dit ce matin-là. Ton esprit saint là. Ton esprit du moins. C'est ton jardin d'Éden. Dieu, c'est là-bas que Dieu vient. Dieu ne vient pas dans ton corps, mais dans ton âme. C'est à toi de faire passer la vie divine qui est dans ton esprit, les bénédictions spirituelles de ton esprit pour les rendre les bénédictions de l'âme et les bénédictions du corps, la guérison. La victoire, la bonne santé, la joie, la paix se trouvent déjà dans ton esprit intérieur. C'est ta bouche et tes actes qui font transférer de ton esprit dans ton âme, dans ton corps. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas responsable de ça. Et cela se fait quand tu donnes au Saint-Esprit une atmosphère de louange. Et si tu es un adorateur, je dis, je suis un adorateur. Et en ce moment-là, et si je remplis mon cœur de la parole de Dieu, et ensuite, mon frère et ma soeur, je me soumets à mes frères et mes soeurs, je reconnais mes frères et mes soeurs, je les valorise. En ce moment, Dieu me dit maintenant, il dit, mon enfant, regarde cette situation-là, commence à me louer, bénis-moi. Et tu vois que ton heure de minuit là devient ton heure d'un nouveau départ. D'un nouveau départ. Qu'un nouveau départ se fasse dans ta vie ce matin. Que plus jamais ta vie ne soit dans l'obscurité. Que le Saint-Esprit qui est dans ton esprit te donne de vivre ce que je te dis ce matin là au nom de Christ Jésus. Que la grâce de Dieu s'inflige dans ta vie de telle manière. Ce que Dieu a déjà préparé pour toi est pour toi au nom de Christ Jésus. Tends tes mains vers le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Toutes ces choses qui sont des bonnes choses sont déjà dans mon esprit. Je n'avais pas compris cela. Je m'attendais à ce que ce qui vient du ciel. Je levais les yeux tout le temps vers toi. Alors que tu m'as donné tout dans mon cœur. Seigneur, à partir de maintenant, par ma bouche et mes actes, je vais catapulter, transférer de mon esprit toutes tes bénédictions, et alors mon âme et mon corps vont bénéficier de tes bénédictions. Car dans mon esprit se trouvent toutes les bénédictions que tu as déjà pourvues. Tu as pourvu à tout cela, Père. Je ne savais pas que c'était moi de transférer tout cela de mon esprit à mon âme. Ce matin, tu m'as montré déjà que par la louange, le parler en langue, le chant en langue, les cantiques spirituels, les hymnes et les psaumes, par la parole dans mon cœur, la soumission réciproque aux frères et sœurs, je peux transférer cela. Seigneur, moi aussi je vais expérimenter. Je voudrais venir donner mon témoignage de ce que j'ai expérimenté ces choses-là. Je ne veux plus écouter les autres témoigner. Je veux être un témoin de Christ. De ce que Christ en nous là, ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas la théorie, mais c'est la réalité spirituelle. Merci Père, je suis aligné sur la ligne de départ pour courir comme un champion et arriver à franchir la ligne. Je ne manquerai pas mon Canaan. Je ne sortirai pas de mon jardin d'Éden. Je resterai dans mon jardin d'Éden. Je vais le cultiver. Je vais l'exploiter. Je vais l'étendre partout. Seigneur, ce que tu m'as donné est pour moi. Ce n'est pas pour toi. Merci. Toutes ces choses que je désire sont déjà en moi. Je ne les chercherai plus ailleurs. Les enfants sont en moi. Le travail est en moi. La victoire est en moi. La santé est en moi. La paix est en moi. Le mariage est en moi. Car pour faire la terre, tu n'as pas sorti des choses d'ailleurs que de toi-même et de ta parole. Les arbres, les oiseaux, les eaux sont venus de toi, alors que toi tu es esprit. Mais par ta parole et ton esprit, tu as transféré ces choses-là. Ce sont ces choses qui sont devenues le monde physique. Mais ces choses n'étaient pas physiques d'abord, elles étaient spirituelles et elles sont devenues physiques. Moi aussi, toutes ces choses-là sont à moi. Je vais les transférer, les transporter dans mon âme, dans mon corps. Satan, écoute-moi. Jusqu'à présent, tu as gagné les combats. Mais la victoire finalement appartient. Tu as gagné des rounds. Mais la finale, c'est moi. La couronne, c'est moi. La médaille d'or, c'est pour moi. Satan, tu as entendu? Quoi que tu fasses, mon Père a le dernier mot. Je suis en lui. Il est en moi. Je ne peux pas faillir. Satan, je refuse de vivre dans la pauvreté. La pauvreté n'est pas mon héritage. La maladie n'est pas mon héritage. La malédiction n'est pas mon héritage. La défaite n'est pas mon héritage. Le célibat n'est pas mon héritage. Et la stérilité n'est pas mon héritage. Satan, écoute-moi. Le péché n'est pas mon héritage. Ça t'appartient à toi. La division familiale, le divorce, ce n'est pas mon héritage. Ça t'appartient. Satan, je te résiste avec la parole de Dieu.
Je refuse que tu domines mon esprit. Tu n'as aucun pouvoir. Arrière de moi. Éloigne-toi de moi. Satan. Car tu n'as rien à faire à moi. Je refuse de marcher sous la domination du péché. Désormais, c'est moi qui domine le péché. Je suis plus que vainqueur. Seigneur, je sais maintenant qui je suis. Tel tu es, tel je suis dans ce monde-là. J'ai la victoire. Merci Seigneur. Alléluia. Dis avec moi Seigneur. Ma vie t'appartient. J'ai l'autorité. Du nom de Jésus. J'ai la puissance. Du Saint-Esprit. J'ai la protection. Du sang de Jésus. Je me mets à l'abri du Très-Haut. Et je rentre dans le repos du Tout-Puissant. Dieu est mon refuge et ma forteresse. Et à cause de cela, je me confie en lui. Et j'ai la victoire. J'ai le succès. J'ai la joie. J'ai le vrai bonheur. J'ai la paix intérieure. Je refuse toute angoisse. Je refuse tout compromis. Au nom de Jésus. Amen.